à vue d'esprit, Catherine Erard.
Face à la frénésie qui secoue notre société, ils sont nombreux, ceux et celles qui pratiquent une forme de méditation, soit pour un mieux-être, soit pour des raisons spirituelles. Et si beaucoup de ces techniques ont leurs racines en Orient, il existe des pratiques issues de la tradition chrétienne, des pratiques remises au goût du jour. Aux racines chrétiennes de la méditation, bienvenue dans le troisième volet de cette série que nous propose Evelyne Auberçon. La réalisation est signée Hélène Ichters. Quand on parle de méditation, on a souvent l'impression que les techniques se ressemblent. Dans tous les cas, on s'assoit, on fait silence, on se concentre sur un point. Pourtant, les origines de ces méditations sont diverses selon les contextes, selon les religions, selon les cultures. Et ce que l'on constate entre ces différentes méditations, c'est que les objectifs sont tout de même parfois différents.
Il y a de réelles différences entre vouloir se calmer, vouloir se sentir mieux et une véritable recherche d'être en union avec Dieu. Ces différents objectifs qu'on va évoquer avec notre invité aujourd'hui, il s'appelle Éric Clotuche. Il est professeur honoraire de philosophie et de psychologie. Il est psychothérapeute et animateur de groupes de méditation. Il est par exemple très actif au sein de la communauté mondiale pour la méditation chrétienne, dont on a parlé lundi, une communauté qui propose une méditation issue des origines du christianisme, qui était remise au goût du jour dans les années 80 par un moine bénédictin anglais.
Et là, alors, on est clairement dans un type de méditation spirituelle qui vise à entretenir une relation avec un être divin.
Totalement. Et Éric Clotuche va concrètement nous expliquer comment ça fonctionne, ce qui se passe à l'intérieur lorsque le méditant désire rencontrer le divin. Le but de cette méditation est de se mettre dans une disponibilité, une ouverture totale, en mettant le mental au repos. Et ça, c'est bien justement le plus compliqué. Éric Clotuche.
Il s'agit d'apaiser le mental, c'est-à-dire le mental par lui-même, son fonctionnement automatique, c'est de penser, c'est de réfléchir, c'est de cogiter, c'est de projeter, c'est de regretter, c'est de travailler dans le futur, dans le passé, c'est de naviguer de cette façon-là. Et on ne peut pas véritablement l'empêcher de faire ça et on ne peut pas l'attaquer de front, ça ne sert à rien. Ce que nous pratiquons, c'est la répétition d'un mot. Ce mot va nous aider à nous mettre dans cette disponibilité. Et là, c'est l'astuce, si on veut, ou l'intérêt du mot, c'est de réorienter l'énergie psychique, on va dire, sur la prononciation de ce mot. Et en l'occurrence, le cerveau n'est pas capable, par construction, de s'occuper consciemment et clairement de deux choses simultanément. Donc, si j'ai une idée qui me traverse et que je suis cette idée, n'importe laquelle, tiens, je dois faire ceci demain, il faut que je téléphone à telle personne, au moment où je me rends compte que le mental est en train de m'embarquer dans ses cogitations, juste à ce moment-là, il me suffit de reprendre conscience que je suis là pour une autre présence que la mienne, de revenir au mot et de le reprononcer consciemment en y mettant toute mon intention et automatiquement, la pensée, elle disparaît. Une autre va suivre, une autre va revenir. Et donc le principe, c'est de revenir sans cesse au mot, revenir au mot, dès qu'on s'en rend compte, revenir au mot.
Est-ce qu'on peut, Éric Clotuche, dire à ce moment-là que la méditation en soi n'est qu'une technique, une méthode pour entrer en relation avec soi et avec Dieu?
Alors tout à fait, il y a un aspect technique bien évidemment, puisqu'on adopte une certaine position, on peut travailler la respiration, on travaille sur un mot ou autre chose, sur une flamme de bougie, que sais-je. Donc effectivement, il y a un aspect corporel en tout cas, et même psychologique. Toutefois, ça c'est une approche ou un regard sur la méditation. Et la méditation peut effectivement être considérée comme une démarche purement psychosomatique, qui aboutit à un bien-être. Effectivement, réellement et mesurable par chacun, même sans appareil de mesure, on peut expérimenter soi-même une détente, un apaisement après un temps de méditation suffisamment long. Tout le monde peut expérimenter ça. Et là, alors, ce sont des aspects purement techniques, extérieurs. C'est une démarche de bien-être et elle est tout à fait intéressante et utile, etc.
Elle est même utilisée aujourd'hui dans les milieux hospitaliers et dans d'autres milieux.
De plus en plus, effectivement, parce qu'on en constate les effets, aussi bien sur le système cardiaque que le système nerveux, que les maladies de la peau, éventuellement, le stress ou les nœuds qui peuvent tenir un être humain de l'intérieur, peuvent en partie se dénouer dans une période de calme volontaire du type méditation. Toutefois, là, nous, on s'intéresse relativement peu à ces aspects-là. On le connaît, on le sait, mais ce n'est pas ça l'objectif. La méditation, pour nous, méditants chrétiens, est une démarche de prière, c'est-à-dire d'ouverture à un autre que nous-mêmes. Et ça, c'est l'intention profonde qui motive cette démarche. Du coup, on n'est pas trop acharné ou strict sur la forme extérieure, sur la méthode elle-même. On a des repères, on connaît, et on va dire ben, c'est mieux d'avoir le dos droit, c'est mieux d'être à genoux assis que couché. Couché, ça porte au sommeil, etc. On a une connaissance physiologique, on va dire, des méthodes qui fonctionnent mieux que d'autres. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Et on a une connaissance des effets aussi. On en bénéficie aussi, on peut s'en rendre compte aussi. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous ouvrir le plus largement possible, le plus profondément possible, au souffle. Parce que nous sommes croyants, et nous croyons qu'à l'envers du décor, il y a un souffle, il y a une présence, il y a un être. C'est pas le vide, qu'il y a un quelqu'un qui nous attend, qui nous souhaite, qui nous espère. Et la méditation peut être appelée, elle est appelée par certains, d'ailleurs, une prière pure, puisque j'essaye de ne plus rien mettre de moi-même et de tout attendre de l'autre. De me mettre à sa disposition. Un petit peu comme celui qui veut bronzer, s'expose au soleil. Ici, je veux bronzer intérieurement, je veux brunir, mûrir intérieurement, et je m'expose. Sans maîtriser rien du tout, à la limite. Seulement la décision de me poser, et puis après, c'est plus ma partie. Je m'abandonne. C'est un abandon de soi. Je me livre en ayant la confiance et l'espérance qu'il y aura une réponse. Mais je ne maîtrise pas la réponse. C'est la part de l'autre.
Éric Lotuche, qu'est-ce qui va distinguer quelque part la méditation chrétienne telle que vous la pratiquez et une autre forme de méditation zen, de tradition bouddhiste ou hindouiste ?
Elle est purement dans l'intention. Extérieurement, si on voit des méditants chrétiens, bouddhistes, zen, peu importe la tradition, en méditation, peut-être l'assis ne sera pas tout à fait pareil, lotus, demi-lotus, à genoux, ça sera peut-être assis sur une chaise, mais tous seront immobiles. Ils ne bougeront pas. Les yeux fermés, les yeux ouverts, bon, là, ça dépend. Extérieurement, il n'y a pas beaucoup de différence. Le registre est relativement limité. C'est le corps qu'il faut mettre au repos. Alors, au point de vue intérieur, là, il peut déjà y avoir plus de différence, puisqu'il s'agit de mettre au repos le mental. Là, alors, on peut trouver des démarches sensorielles, fixer une bougie ou un parfum, fermer légèrement les yeux sur un paysage, sur un jardin où le gravier a été aménagé dans des courbes subtiles et sobres et apaisantes, etc. Là, il peut y avoir toutes sortes de démarches. Ça reste encore psychophysique. Nous, l'intention profonde, c'est de nous ouvrir à Dieu, à celui que nous appelons Dieu, et dont nous croyons à l'existence, et dont nous vivons à travers la parole de son représentant pour nous sur terre, le Christ, de celui de son envoyé sur terre, celui qui l'a fait connaître de cette façon-là, qui en a parlé et qui en a vécu. Donc nous, c'est une relation, c'est une rencontre qu'on espère. On se met en, c'est au niveau de l'intention profonde. Je dirais par comparaison, quand quelqu'un se baisse, vu de l'extérieur, il se baisse à angle droit, ça peut être pour ramasser un papier, mais ça peut être pour s'incliner devant un objet sacré ou une statue. Mais extérieurement, le geste est le même. On se baisse, mais intérieurement, la différence, elle se situe là.
La méditation chrétienne est très très peu connue ou très peu pratiquée chez les catholiques, oui, ou chez les protestants. Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour qu'on redécouvre ou qu'on ait besoin, on va dire, d'avoir une technique de méditation plutôt qu'une prière que l'on récite ?
J'évoque des hypothèses, hein. Je n'ai pas beaucoup creusé cette question. Peut-être que l'Église ou les Églises se sont assez souvent méfiées des courants mystiques. Parce que le mysticisme a toujours une forme de liberté qui ne se soumet pas nécessairement aux structures et aux règles, et qu'une structure va avoir une espèce de réflexe de protection, de dire « méfions-nous quand même, c'est un peu des cavaliers seuls, il ne faut pas que tout le monde fonctionne comme ça, sinon on fait tout et n'importe quoi ».
Maintenir un contrôle.
Un contrôle et une certaine cohésion, ou une certaine unité, ou un certain lien avec les fondements, quand même, avec des choses qui sont fondamentales. On va pas inventer notre propre religion. Enfin, si on peut le faire, bien sûr, hein, mais si on se raccroche à une personne comme le Christ, il y a quand même des choses qu'il a dites, des choses qu'il n'a pas dites, des choses qu'il a faites et d'autres qu'il n'a pas faites. Donc il y a un certain parfum, il y a un parfum d'évangile, il y a une certaine direction, il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur. Donc si on se réclame du Christ, il y a à s'inscrire dans le même chemin, dans la même direction. Et c'est peut-être à ça que servent les églises, elles ont une utilité. En même temps que assurer la continuité, c'est grâce à l'église que les textes nous sont parvenus à travers les siècles. Hein, quand même, des textes, c'est rare dans l'histoire de l'humanité, de la culture humaine, qu'on dispose de textes aussi anciens. C'est même assez exceptionnel. Mais parce qu'ils ont été préservés, parce qu'ils ont été considérés comme sacrés par une structure qui en a pris soin. Donc c'est aussi un cadeau que la structure nous fait. Elle peut parfois être encombrante, effectivement. Elle peut parfois être un peu trop omniprésente, comme l'ego peut être un peu trop omniprésent aussi dans la vie spirituelle de chacun, individuellement.
Éric Lotuche, comment dissocier la démarche spirituelle du méditant avec tout son vécu, tout son mental, tout son vécu psychologique ? Comment est-ce qu'on dissocie toutes ces parties qui s'entremêlent lorsqu'on médite ?
On ne dissocie pas, on vient avec tout ça. Nous sommes tous là. Nous sommes un corps, nous sommes une psychologie, nous, avec des besoins, avec un passé, avec une histoire, une mémoire, avec des traces, avec des désirs, avec des émotions, avec des valeurs, avec des attachements. Nous sommes cela. Donc, une démarche spirituelle ne peut pas exclure ça. Ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas mettre ça à la porte. Par contre, une démarche spirituelle n'est pas une démarche physique ni psychologique. C'est une démarche spirituelle, mais qui prend en compte toutes les dimensions de l'humain, les trois dimensions. Donc, il n'y a pas à dissocier, il y a à être entier. entier, dans un chemin spirituel.
Mais on a l'impression parfois que sur ce chemin spirituel, notre physique ou notre mental ou les difficultés psychologiques que nous rencontrons entravent ce chemin spirituel.
Tout à fait, ça peut être effectivement des freins. Il peut y avoir des moments où le corps se manifeste tellement fort que il n'y a plus de place pour autre chose au niveau de la conscience, par exemple dans la souffrance, dans la grande souffrance. La souffrance remplit tout le champ de conscience, il n'y a pas beaucoup de place et de disponibilité pour autre chose, mais ça peut être aussi une souffrance psychologique qui peut remplir tout le champ de conscience, une perte, un deuil, une déchirure qui est tellement forte et tellement profonde qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Donc là, évidemment, une démarche spirituelle ne peut pas vraiment prendre son essor. Si on a déjà commencé cette démarche spirituelle avant une fracture de ce type-là, on peut peut-être la continuer ou la reprendre dans ces moments de difficulté. Mais si on ne l'a jamais pratiqué, c'est difficile. Et de toute façon, dans les deux cas, je pense qu'il faut s'occuper de là où ça fait mal et prendre soin de là où ça fait mal, de tenter de guérir si c'est possible. Aussi bien physiquement que psychologiquement, d'apaiser ça, de trouver une issue au niveau psychologique, de trouver un remède au niveau physique. Parce que tant que ce n'est pas fait, je répète, on n'est pas très disponible pour autre chose. Donc, je ne veux pas dire qu'une démarche spirituelle ne peut se pratiquer que lorsqu'on est en bonne santé et en bon état psychologique, mais si le corps et le mental crient trop fort, il faut quand même leur accorder du soin, bien entendu. Donc, il n'y a pas de dissociation. Maintenant, au cours d'une démarche spirituelle, on constate que des choses peuvent remonter, que d'ordre psychologique surtout. Que des choses qui étaient enfouies et qu'on ne pensait même pas qu'elles pouvaient être problématiques, peuvent, dans cet état d'ouverture et de disponibilité, où on se déverrouille, où on lâche les masques, les freins, les choses qui nous tiennent habituellement dans la vie, qui nous protègent, les habitudes qu'on a d'entrer en relation avec les autres et de se masquer ou de se protéger ou d'anticiper avec toutes sortes de stratégies de ce genre-là. Ici, forcément, la méditation, la démarche de méditation est une démarche d'abord donc où on lâche tout cela. Et là, peut-être que ça peut ouvrir la porte à des choses qui n'étaient pas encore révélées, qui n'étaient pas encore manifestes, dont on ne s'était pas encore rendu compte éventuellement, ou éventuellement même raviver des choses qui étaient plus ou moins endormies, pas tout à fait guéries, encore tapies, là, etc. Là, ce sont des aspects psychologiques. S'ils sont trop importants, nous ne sommes pas des groupes de thérapie. Ça, c'est clair, nous sommes des groupes de méditants dans une tradition particulière. Nous ne sommes pas compétents pour soigner le corps ou le mental. Et donc là, si c'est trop problématique, trop encombrant, trop présent pour une personne, nous renvoyons aux spécialistes, aux personnes compétentes. Ça serait bien que vous preniez soin de cela, que vous passiez un peu de temps là-dessus, sur l'un ou l'autre aspect, pour tenter de le régler et d'en être débarrassé, de déposer le paquet. Parce que ça peut être trop profondément perturbant ou encombrant. Mais nous ne nous occupons pas de ces aspects-là. Si ce n'est que nous les connaissons. Nous savons qu'il y a des phases. Nous savons que c'est possible. Nous pouvons être attentifs parce que nous savons que c'est tout à fait dans l'ordre des choses possibles, dans un cheminement spirituel qui n'est pas une longue ligne droite, qui est faite de haut et de bas, de traversée de désert. C'est exactement comme un voyage. Nous parlons de pèlerinage. On passe par des contrées, parfois inconnues, parfois effrayantes, parfois sèches, desséchantes, parfois froides, parfois chaudes, parfois toutes pleines de lumière, etc. Donc, on sait que c'est un chemin, un véritable chemin intérieur, et au cours duquel on peut rencontrer des choses difficiles, des moments difficiles, des tournants à prendre, et, des choix éventuellement à faire, des choses de cet ordre-là. Oh,
dans une société où on a l'impression que la vie de nos contemporains n'est qu'une course effrénée, beaucoup recherchent un mieux-être, recherchent à savoir un peu mieux qui ils sont. Dans cette démarche-là, comment on distingue de ce qui est de l'ordre du développement personnel et une véritable démarche spirituelle, c'est-à-dire une véritable rencontre vers un autre, vers Dieu?
La distinction n'est pas facile. Chez nous en Occident et à notre époque, elle n'est plus très claire. Le distinguo ne se fait plus. On le voit au niveau des mots. Si on demande, si on faisait un micro-trottoir et qu'on demande à monsieur tout le monde, c'est quoi un être humain? Probablement que la majorité, si pas la totalité des réponses, va être du style ben c'est un corps et une âme ou un corps et un esprit. Et donc une entité qui est duelle, qui a deux parties. Le corps, c'est évident, mais parce qu'il est visible, il est matériel, là on ne peut pas l'ignorer, dans toutes les langues il y a un mot pour le corps. Mais à l'intérieur, il y a peut-être des choses qui existent et qui sont de deux natures différentes, de deux ordres différents. Et là, le mot âme et le mot esprit, dans leurs racines grecques et latines, révèlent une différence de nature.
On ne parle pas de la même chose si on parle de l'esprit ou de l'âme.
On ne parle pas de la même chose. Et il se fait que dans la langue française, le mot âme et le mot esprit se sont confondus. Je ne vais pas en faire l'historique parce que c'est une histoire qui s'étend sur plusieurs siècles. Il se fait qu'ils sont peu à peu, il suffit d'ouvrir un dictionnaire, devenus tout à fait synonymes et interchangeables. Âme pour esprit, esprit pour âme. Si je prends par comparaison les mots en anglais, il y a body pour le corps, mind pour le mental, spirit pour l'esprit. Alors, qu'en est-il de âme et esprit? Je préfère éviter ces mots-là qui sont un peu trop piégés, trop connotés, et revenir au vocabulaire grec d'il y a 2000 ans d'ailleurs, tout le bassin méditerranéen, où on désigne l'homme selon cette... On se considère soi-même comme triple, comme ternaire, à la fois soma, corps, psyché, psychologie, et pneuma, souffle. Ce sont les trois dimensions qui faisaient l'unanimité, je pense, dans tout le bassin méditerranéen. Et là, on voit bien alors la distinction entre trois plans qui doivent chacun être nourris de manière différente par une nourriture appropriée. Le corps, bien entendu, il doit pouvoir respirer, il doit pouvoir se nourrir, on doit pouvoir dormir aussi, il y a des besoins au niveau physiologique qui, s'ils ne sont pas satisfaits, peuvent conduire à la mort, hein, bien entendu. Au niveau psychologique, psyché, nous avons également des besoins et nous pouvons faire du travail sur nous-mêmes à ce niveau-là, nous développer, effectuer des démarches de développement personnel en estimant que, par exemple, nous sommes pas assez ceci ou trop cela ou en défaut là-dessus ou fragile là-dessus ou faible là-dessus, que nous aurions à découvrir telle chose, à nous connaître davantage, etc. Et là, on entreprend une démarche d'exploration de soi-même, de sa psyché. Et puis, il y a pneuma. Et pneuma est une dimension qui n'est pas psyché. C'est la dimension du souffle, ce qui nous relie au ciel, ce qui nous relie à l'infini. Cette soif d'absolu qui nous tenaille, pour moi, tous au fond de nous-mêmes, cette faim et cette soif de lumière, de paix, d'amour, de justice.
Quelles que soient nos convictions, il y aurait une sorte d'universel à imaginer que nous avons une aspiration autre que celle que nous voyons ou nous sentons.
Il me semble que oui. Avec la petite expérience que j'ai et les lectures que j'ai faites, il me semble qu'effectivement, c'est dans le cœur de tout être humain d'avoir le goût, un goût fondamental pour l'amour, de ressentir en lui une inclination profonde pour la vérité plutôt que pour le mensonge, d'avoir faim de justice plutôt que d'injustice, de pas trop aimer ça. Il me semble que c'est quelque chose d'absolument fondamental, une espèce d'orientation ontologique, de l'être vers le haut plutôt que vers le bas, je dirais, de manière un peu caricaturale. Une espèce d'attraction, une aimantation, comme une boussole qui est aimantée vers le nord, dont on peut faire fi, on peut ne pas se préoccuper de cette aimantation et on vit bien, et on se préoccupe des deux autres plans. Et l'intérêt de faire le distinguo entre essentiellement le psychologique et le spirituel, c'est que si on ne fait, c'est qu'on peut mieux travailler sur chaque plan pour ce qu'il est, sans mélanger, sans confusion. Une démarche spirituelle, pour être authentique, doit se connaître comme authentiquement spirituel, c'est-à-dire je dois savoir ce que je suis occupé à faire, ce que je vise, dans où je me trouve, dans quel paysage. Une démarche spirituelle est presque d'office allocentrée, ne fût-ce que par le fait qu'on se tourne vers quelqu'un d'autre que soi-même, quel que soit cet autre, de quelque façon qu'on le nomme. Qu'on le nomme, même qu'on ne le nomme pas, qu'on le considère comme une puissance ou une énergie ou la lumière ou la beauté ou la vérité ou l'amour ou Gaïa, même la terre ou que sais-je. Quelle que soit la façon dont on nomme cet autre, majuscule, il ne s'agit pas de moi. Donc il s'agit d'avancer vers cet autre. Et là, alors, on est dans un chemin spirituel pour lequel les traditions sont toutes d'un grand recours, puisqu'elles ont, en principe, les traditions authentiques, l'expérience de ce cheminement. Elles peuvent conseiller, elles connaissent ce chemin. Mais si je ne fais pas la distinction entre travail psychologique et cheminement spirituel, je risque de patauger et de prendre l'un pour l'autre et de ne pas avancer véritablement.
Éric Lotuche, et la différence entre le psy et le spi, le psychologique et le spirituel. Éric Lotuche, on le rappelle, est professeur honoraire de philosophie et de psychologie, psychothérapeute et aussi animateur du groupe de méditation, en l'occurrence une méditation chrétienne, Evelyne Auberçon.
Oui, Éric Lotuche est coordinateur pour la France de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne. Il a donné en septembre une retraite en Suisse, la même où j'ai rencontré des méditants que nous allons entendre demain. Ils nous raconteront leur cheminement spirituel qui, bien souvent, est passé par l'Extrême-Orient avant de retrouver leurs racines chrétiennes au travers justement de la méditation chrétienne dont vient nous parler Éric Lotuche.
Et si vous souhaitez plus d'informations sur ce type de méditation, n'hésitez pas à consulter notre page internet rts.ch/esprit où vous trouverez des liens et des références. Ainsi se termine cette émission d'Un vue d'esprit. Retrouvez-nous demain à 16h30 pour la suite de cette série signée Evelyne Auberçon et intitulée « Aux racines chrétiennes de la méditation ». Et pour plus d'informations, notre page internet rts.ch/esprit. Dans quelques minutes, vous retrouvez Daniel Robella et D'un air entendu. Belle fin d'après-midi à vous tous. Vous êtes à l'écoute d'Espace 2. Il est 17h.